Cela se voit plus clairement dans la dernière brochure de Staline, publiée en 1950, intitulée « À propos du marxisme en linguistique ». Il y avait, vers les années 45-50, en Union soviétique, un débat, une discussion. Alors, qu'est-ce que c'est que la langue? Qu'est-ce que c'est que la langue? Comment le marxisme, comment la dialectique opère dans le problème du langage? Et puis, évidemment, il faut avoir présent à l'esprit que la Russie soviétique est un État multiracial, multinational, beaucoup de langues, beaucoup d'ethnies, etc. Et puis, si on admet qu'il y a une dialectique et qu'effectivement, chaque ethnie, que chaque classe doit avoir sa langue, étant donné que les classes dans les régions d'une diversité énorme et d'un niveau de développement différent, chacun pourra avoir le prolétariat de chacun des régions, des États inégalement développés pourra avoir sa langue, cela pourrait conduire à une désunion, à une catastrophe en ce qui concerne la Russie. C'est pourquoi, dans la brochure sur le marxisme et linguistique, Staline prend position. Je cite, il dit, ainsi, premièrement, il conclut de cette façon-là, premièrement, la langue comme moyen de communication a toujours été et reste une langue unique pour la société et commune à tous ses membres. La thèse du caractère de classe de la langue est une thèse erronée, non marxiste, fin de citation. Ainsi donc, tout peut se transformer, tout peut changer, rien n'est absolu, sauf la langue. Parce que cela facilite le travail politique de camarade Staline. Après Staline, Mao Tse-tung traite directement de la dialectique dans deux essais. C'est d'abord un article de 1937, donc du vivant de Staline, intitulé « De la contradiction ». Un autre article date de 1957, intitulé « De la juste solution des contradictions au sein du peuple ». Dans ces deux articles, Mao Tse-tung se réfère très peu à Marx, parce qu'effectivement, quant à l'application de la dialectique au domaine de la science, de la nature, on ne peut pas trouver grand chose chez Marx. Mais très abondamment à Engels, surtout à Lénine et à Staline. Il fait effectivement un pas en avant parce qu'on assiste avec Mao Tse-tung à une nouveauté puisqu'il distingue entre la contradiction ou les contradictions secondaires et principales. Contradiction antagoniste. Évidemment, la notion de contradiction antagoniste et non antagoniste existe chez Marx, chez Lénine. Mais il illustre cela au moyen de plusieurs exemples, mais surtout la contradiction secondaire et principale. Et il arrive à définir, et il définit l'essence des choses par la contradiction spécifique et la contradiction existante dans le mouvement. Voici ce qu'en dit Mao Tse-tung, je cite. Toute forme de mouvement contient en soi ses propres contradictions spécifiques, lesquelles constituent cette essence spécifique qui différencie une chose des autres. C'est cela qui est la cause interne ou, si l'on veut, la base de la diversité infinie des choses dans le monde. L'essence spécifique de chaque forme de mouvement est déterminée par les contradictions spécifiques que lui sont inhérentes. Ainsi, bien qu'il va un pas de l'avant avec la distinction que je viens de mentionner, Mao Tse-tung, en ce qui concerne le problème de la contradiction dans la nature au sens strict, il reste toujours et encore dans la généralité. Il n'a pas avancé d'un pas depuis Engels. L'essence spécifique des choses, pour connaître l'essence spécifique des choses, il faut connaître leur contradiction spécifique, dit Mao Tse-tung. Et je cite, il reprend en complétant ce qu'avait dit Lénine. Plus ou moins en mathématiques, action et réaction en mécanique, électricité positive négative en physique, la combinaison et dissolution en chimie, force productive, rapport de production en économie, lutte de classe en sciences sociales, l'attaque et défense dans la science militaire. Tout cela constitue l'objet d'études de différentes branches de la science, conclut Mao Tse-tung. Dans l'impossibilité de pouvoir connaître l'essence spécifique des choses, ce qu'il y a de l'universel dans le mouvement et dans la contradiction, ou dans les contradictions, alors il faut étudier les spécifiques. Pour cela, il faut aller d'abord de particulier au général, donc induction, ensuite déduction, c'est-à-dire de général au particulier. C'est pourquoi, dit Mao, ce sont là, je cite, ce sont là les deux étapes du processus de la connaissance. La première va du spécifique au général, la seconde du général au spécifique. Fin de citation. Mais à défaut de pouvoir connaître scientifiquement l'essence spécifique des choses, induire ou déduire revient finalement au même. Qu'importe qu'on aille du particulier au général ou qu'on descende du général au particulier. De toute façon, ces démarches sont nécessaires. Voici ce que dit à ce propos précisément Jean-Paul Sartre dans la critique de la raison dialectique. Sartre cite d'abord Engels et non pas Mao Tse-tung, car finalement Mao, comme je l'ai indiqué à l'instant, puise dans Engels. Je cite Jean-Paul Sartre, mais voyons ce qu'Engels nous dit des lois les plus générales de l'histoire naturelle et de l'histoire sociale. Ceci, on peut les réduire pour l'essentiel à trois. La loi du renversement de la quantité en qualité et inversement. La loi de l'interpénétration des contraires, la loi de la négation de la négation. Toutes trois sont développées par Hegel à sa manière idéaliste, comme de simples lois de pensée. L'erreur consiste à vouloir imposer ces lois à la nature et à l'histoire comme lois de pensée au lieu de les en déduire. Jusqu'ici, Sartre cite Engels. Et maintenant, il commente. L'incertitude d'Engels se laisse voir dans les mots qu'il emploie. Abstraire n'est pas déduire. Et comment déduira-t-on des lois universelles d'un ensemble de lois particulières? Cela s'appelle induire si l'on veut. Et nous avons vu qu'en fait, on ne trouve dans la nature que la dialectique qu'on y a mise. Pourquoi mis dans la dialectique? Pourquoi mis la dialectique dans la nature? Pour la simple raison qu'il est impossible, précisément, en dehors d'imaginer, en dehors des hommes, en dehors de nous et notre rapport avec la nature, imaginer qu'il peut y avoir une contradiction. Quant au processus, quant au rapport des choses isolément entre elles. Cet avis, cette opinion de Sartre a été et partagé aussi par Maurice Merleau-Ponty dans Les Aventures de la Dialectique, par Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité, où il dit qu'on ne peut pas prouver à l'état actuel de développement de la biologie qu'il y a une nécessité plus que le hasard. La vérité, c'est donc qu'à l'état actuel des développements de la science, on ne peut ni affirmer ni confirmer l'existence d'une liaison dialectique et de lois dialectiques au sein de la nature. Il n'en va pas de même en ce qui concerne l'histoire. Je crois qu'on pourra conclure en ce qui concerne la dialectique de la nature. La finalité de Marx étant la thèse 11 sur Feuerbach dont nous avons parlé l'autre soir, jusqu'ici les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Ce qu'il faut maintenant, c'est de le transformer. Il ne s'agit pas de philosopher, puisque nous ne sommes pas en mesure de savoir si il y a la contradiction, oui ou non, dans les choses. Il y a des tâches plus urgentes, plus importantes, et donc on peut, sans préjudice à la théorie marxiste, à l'esprit révolutionnaire du marxisme, on peut très bien continuer le travail révolutionnaire, on peut très bien continuer le travail scientifique qui par essence même est souvent révolutionnaire, sans qu'on soit obligé d'admettre que la nature est dialectique. Dans ce cas, la dialectique serait la science des lois générales du mouvement de la société et de l'histoire humaine, un mouvement qui est créateur de nouveautés. Une telle dialectique admet des petites vérités, telles Napoléon est mort le 5 mai 1921, général de Gaulle telle date, et pas des grandes vérités définitives. Toute vérité scientifique est provisoire. La loi en elle-même ne peut être acceptée en tant que dialectique. La loi de l'évolution de l'eau à 100 degrés dans des conditions déterminées, c'est une loi. Mais on ne peut pas dire que cette loi, elle est dialectique. Là encore, le problème, donc, se prête à la réflexion. Par conséquent, on ne peut aujourd'hui ni affirmer ni infirmer la validité de la dialectique quant à la nature. Que ce soit chez Staline, chez Mao Tse-tung, chez Lénine, en tant que marxiste, en tant que les hommes qui ne veulent marcher qu'avec la science, on ne peut donc se livrer à un a priori, c'est-à-dire à une affirmation qui n'a pas les moyens d'affirmer, de porter la preuve de ces affirmations. Merci.
C'est un exposé qui mérite discussion, bien entendu. Je voudrais, avant la discussion, rectifier peut-être deux petites choses que tu as dites, parce que ça pourrait prêter à malentendu. À propos de la brochure de Staline, Anarchisme et socialisme, Elle n'est pas de 1946, peut-être c'est une réédition en 1946. En réalité, elle a été écrite, alors je ne peux pas citer la date de mémoire, mais c'est une des premières œuvres de Staline. Elle est de 1906, quelque chose comme ça, mais non pas 1946. Et à propos de Lénine, Lénine n'a pas du tout avancé la théorie des deux sciences. Il a dit il y a deux idéologies, l'idéologie prolétarienne et une idéologie bourgeoise. Mais Lénine, il ne faut pas confondre Lénine avec Zhdanov. C'est Zhdanov qui a avancé la théorie d'une science bourgeoise et d'une science prolétarienne. En ce qui concerne la science, Lénine a parlé de l'influence de l'idéologie bourgeoise sur la science, mais en tant que science, il était bien, lui, persuadé qu'il y avait une science valable, une objectivité scientifique, et non pas une science bourgeoise et une science prolétarienne. Je crois que là, il y a deux petites...
conclusions. Maintenant, si je peux te répondre, Victor, à propos de Lénine. La première, j'accepte tout de suite, volontiers, j'ai fait une confusion en ce qui concerne la date, mais à propos de l'existence de deux sciences, moi-même, je ne l'ai pas remarqué en travaillant sur Lénine, effectivement. Mais cette affirmation, je la tiens de Althusser. Dans le papier que j'ai cité d'ailleurs dans la bibliographie que j'ai distribuée à l'instant, c'est celui qu'il a écrit en 72, Lénine et la philosophie suivie de Marx et Lénine devant Hegel, Maspero, 72. C'est Althusser qui dit la révolution la plus importante de Lénine, c'est d'avoir établi l'existence de deux sciences bien différentes. Une science, celle de prolétariat, l'autre, celle de la bourgeoisie. Quelque chose comme ça. Non ?
Il y a certainement une confusion. Il y a certainement
c'est
une
possible.
Confusion parce que je connais Althusser depuis très longtemps et justement, j'ai connu Althusser dans la période où il a été à la pointe de ceux qui luttaient au sein du Parti communiste contre la théorie des deux sciences. Donc il a certainement dit autre chose. Il a certainement dit il y a deux idéologies, c'est une découverte de Lénine, encore ce ne soit pas tellement une découverte de Lénine, mais il n'a pas dit c'est Lénine, il y a la théorie des deux sciences. Ça me paraît, enfin je n'ai pas les textes sous les yeux, mais ça me paraît très difficile à admettre de la part de Althusser.
C'est possible. Que ça soit une mauvaise lecture de
ça, ce sont des points de fait.
Oui, bien sûr.
Ceci dit, c'est pas pour empêcher la discussion, au contraire. Attends, on va t'apporter un micro.
Tu peux le prendre par là. Tu veux de l'eau, Victor ?
Tu as défini à plusieurs reprises le mouvement. La contradiction, mais alors en définissant un peu, enfin j'ai eu l'impression, le mouvement par la contradiction et vice-versa. Est-ce que tu peux essayer de redéfinir ces deux notions, l'une par rapport à l'autre et peut-être l'une séparément ?
Bien sûr, j'espère du moins. Le mouvement, Engels dit, Mao Tse-tung le répète par la suite, le mouvement en lui-même, c'est une contradiction. Il définit même l'essence des choses par rapport au mouvement. C'est-à-dire, s'il y a une différence entre le stylo et le cendrier et la bouteille, c'est précisément parce que les mouvements des atomes à l'intérieur de ces objets sont différents. Donc, le mouvement en lui-même, j'ai cité Mao, Engels, le mouvement en lui-même, c'est une contradiction. Elle suppose le temps, l'espace, et il suppose le temps et l'espace, et en lui-même, c'est une contradiction. Comment ? C'est précisément ce que je conteste à la suite d'autres. Comment est une contradiction ? Dans la société, oui, mais dans les choses, dans les objets, dans les phénomènes de la nature, comment ? Ça, c'est à discuter.
poser deux questions là. La première, c'est sur l'idée que cette généralisation à la nature de la dialectique ne gênait pas la pratique révolutionnaire. Moi, il me semble qu'on pourrait dire plus précisément qu'une telle idée n'a pu apparaître que dans une période où, disons, la pratique révolutionnaire était un petit peu en baisse, quoi, était un peu déficiente, et qu'une telle idée est absolument contradictoire a priori avec justement une pratique révolutionnaire conséquente, quoi. Donc je me demande si c'est pas dans une période de recul, disons, du mouvement ouvrier qu'une telle idée de généraliser la dialectique à la nature a pu germer, quoi. Et le deuxième point, c'est au sujet de Hegel. Il m'a semblé, enfin en lisant Hegel, il m'a semblé que très souvent il avait concernant, évidemment il y a les deux problèmes, souvent il parle lui aussi d'expliquer dialectiquement par exemple la lumière ou des trucs comme ça, et à ce moment là c'est parfaitement ridicule parce que disons que le développement de la science a complètement affirmé tout ce qu'il dit. Mais en général, il parle surtout des institutions sociales. Et il me semble donc que, y compris chez Hegel, la dialectique apparaît surtout comme un élément du social, quoi, de la société, de l'interprétation de la société. Et donc, dans une certaine mesure, Hegel serait plus proche de Marx, quoi, dans une certaine question, dans une certaine mesure.
En ce qui concerne Hegel, je te dis tout de suite, non. Parce que l'exemple de l'évaporisation de l'eau que j'ai cité l'autre soir, ça vient tout droit de Hegel. C'est Hegel qui a cité cet exemple. L'accumulation en la chauffant des changements quantitatifs qui arrivent à 99 degrés 99 centièmes, l'eau accumule des changements quantitatifs mais ne transforme pas physiquement. Mais ce n'est qu'à partir de 100 degrés qu'elle s'évaporise. Par conséquent, Hegel voyait là une transformation, un changement dialectique dû à la négation, de la négation. Donc, ce genre d'exemple existe en ce qui concerne la nature chez Hegel. Quant à ta première question, si l'idée de la généralisation vient ou non à un moment du recul du mouvement ouvrier, là je ne saurais dire quoi que ce soit. Je voudrais prier Victor s'il a des idées là-dessous. Engels, lui, il a commencé à étudier, il s'est lancé dans l'étude de la dialectique dans la nature à partir de la mort de Marx. Et il a réuni un certain nombre de documentations, des exemples, etc., jusqu'à sa mort, donc 1895. Et il est mort sans pouvoir le publier, ces notes, et elles ont été publiées par la suite. Est-ce que, effectivement, lorsque... on pourrait peut-être dire, j'avancerai cette hypothèse, quitte qu'on en discute ensuite, qu'au moment où Engels s'est lancé dans la dialectique de la nature, il y avait un certain accalmie en ce qui concerne le mouvement révolutionnaire en Europe. C'est après la fin de la Première Internationale, c'est après la mort de Marx qu'il a commencé effectivement dans cette étude. Ensuite, la généralisation faite par Lénine, je ne crois pas que c'était une période particulièrement calme. Mao Tse-tung, 1934-1935, je connais mal l'histoire de mouvements ouvriers en Chine à cette époque-là. Staline, évidemment, chez lui, on sait de plus en plus et chaque jour davantage que chez lui, ce qui prédominait, c'était les considérations d'ordre politique qui prédominent sur des considérations proprement scientifiques.
Oui, je crois que la liaison n'est pas directe entre l'affirmation d'une dialectique de la nature et une certaine accalmie ou recul, ou un certain recul du mouvement ouvrier. Je crois que la liaison, il faut la chercher ailleurs. C'est peut-être moins vrai pour Engels que pour ses successeurs, mais enfin, même pour Engels, lorsqu'il a cherché à étendre la dialectique à la nature, bon, il ne faut pas oublier les circonstances. D'abord, tout de même, l'origine hegélienne de la dialectique. Bien que Marx ait repris la dialectique chez Hegel, l'ait renversée, remise sur ses pieds, ou lui ait fait subir une mutation, comme on voudra, on a déjà beaucoup discuté, elle reste tout de même beaucoup tributaire de Hegel. Or, c'est vrai que chez Hegel, il y a une dialectique de la nature. Il y a une dialectique de la nature. Puisque pour Hegel, l'existence même de la nature, c'est une négation. N'oublions pas le système de Hegel. Il y a d'abord l'idée, l'idée en soi, en quelque sorte, l'idée inconsciente d'elle-même, l'esprit encore inconscient de lui-même, qu'il appelle idée, et qui s'aliène en nature, devient autre que soi, devient nature. Et en tant que nature, c'est une négation de l'esprit. C'est donc un avatar, c'est l'antithèse plutôt de l'idée, hein, parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas encore d'esprit, il y a l'idée. C'est l'antithèse de l'idée. C'est donc déjà un aspect dialectique de la nature. Et puis, comme la dialectique, elle n'est pas simplement dans ses grands effets, d'abord l'idée, puis la nature, puis l'histoire, et puis l'esprit, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Mais elle se poursuit. Elle se poursuit constamment. À chaque fois, on retrouve une thèse, une antithèse et une synthèse dans chaque moment du développement. Alors, au cours de l'idée elle-même, il y a toute une série de thèses, d'antithèses et de synthèses dans l'existence même de l'idée. Puis après, dans l'existence de la nature, on retrouve des thèses, des antithèses et des synthèses. Et en effet, beaucoup d'exemples comme celui de l'eau, comme celui de l'œuf, comme celui de la fleur, on les trouve chez Hegel, hein, ou très artificiellement, il faut le dire, et d'un point de vue scientifique, c'est assez comique, hein, c'est assez risible, des explications de ce genre, hein, très artificiellement, on veut montrer que la nature réalise constamment, dans son développement, hein, la loi de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. Alors, c'est déjà chez Hegel. Engels subit tout de même, il est tout de même dans l'héritage hegélien. Seulement lui, il veut combiner cette idée hegélienne d'une dialectique dans la nature, thèse, antithèse, synthèse, avec ce que la science de son temps apporte. Alors il essaie de scientifiser, si on peut dire, la dialectique de la nature. Alors c'est déjà dans l'Anti-Turing. Et ça devient plus systématique encore dans le livre qui s'appelle La dialectique, qu'on a appelé ensuite La dialectique de la nature, enfin, le recueil de notes qu'on a bâti en un livre qui s'appelle La dialectique de la nature. Alors lui, il a évidemment un certain nombre d'éléments venant de la science, mais de la science de son époque, c'est-à-dire d'une science tout de même encore limitée, qu'il interprète, par exemple la théorie de l'évolution. Ça lui paraît tout à fait concordé, puisqu'il y a en effet du changement, il y a du mouvement dans la vie. On peut très bien appliquer à cela, il lui semble qu'on peut très bien appliquer à cela un schéma dialectique. Comme dans les découvertes de la chimie, les découvertes de l'astronomie, etc. Il lui semble qu'on peut appliquer à toutes ces découvertes un schéma dialectique. Alors il fait un effort scientifique pour appliquer à la science de son temps ce schéma. Mais, bien sûr, la science, comme l'a dit tout à l'heure Ranjavi, se développe à son propre rythme, hein, et ce qu'avait dit Engels, bon, est parfaitement insuffisant devant les découvertes scientifiques qui ont suivi. Et on s'aperçoit que ces schémas ne s'appliquent pas. Ils sont beaucoup moins artificiels que ceux de Hegel, mais ils restent quand même artificiels. Alors ça, c'est pour Engels qui, en somme, recherche un enracinement du marxisme, et c'est ça le danger d'ailleurs, c'est ça le danger. Recherche un enracinement du Marx, de ce qu'a pu apporter le marxisme, un enracinement dans l'être lui-même. Lorsque Rajavi parle d'ontologie, c'est ça que ça veut dire, essayer de donner au marxisme un fondement dans l'être lui-même, dans la nature. Ainsi, on sera absolument assuré de posséder la vérité. C'est la recherche d'une certitude, une certitude totale. Le marxisme n'est pas seulement quelque chose qui est vrai dans le domaine de la société, dans le domaine de l'histoire, c'est vrai aussi dans le domaine de l'être dans son plus profond, dans ses profondeurs, c'est-à-dire de l'être dans la nature même. Alors évidemment, là, on cherche une espèce de certitude totale. C'est plutôt une avancée vers, je dirais, vers un dogmatisme. Encore que Engels ne soit pas lui-même tellement dogmatique, il y a là un danger de dogmatisme qui était déjà contenu dans cette recherche. Et en effet, pleine d'a priori non vérifiée et non vérifiable. Parce qu'après tout, on pourrait dire, peut-être il y a une dialectique dans la nature, peut-être, mais c'est à la science de nous apporter à un certain moment tellement d'éléments qu'on puisse affirmer qu'il y a une dialectique dans la nature. Encore que ça n'a pas beaucoup de sens. Le vieil Héraclite, qui est le premier dialecticien, philosophe grec, un pré-socratique, avant Platon, lui, il voyait aussi une dialectique, parce qu'il disait la guerre est à engendrer toute chose, la guerre est le père de toute chose, le conflit. Et dans les choses mêmes, et comme exemple, il disait le chaud et le froid, le jour et la nuit, le blanc et le noir, etc. Vraiment, là, c'était bien naïvement affirmé qu'il y avait dans l'être lui-même des contradictions qui ne sont en fait des contradictions que pour les hommes. Parce que le chaud et le froid, pour nous, ça peut être des contradictions, c'est nous qui l'éprouvons. Mais comme phénomène physique, ça n'a rien de contradictoire. C'est simplement des éléments différents de la réalité physique. Ça n'a rien de contradictoire. Le jour et la nuit, c'est contradictoire pour nous. Mais en soi, ça n'a rien de contradictoire. C'est simplement des aspects différents de la réalité. Et ainsi de suite. Alors, je crois qu'on peut très bien comprendre à partir de là la tentation. La tentation qui est de toujours rapporter à la nature elle-même des contradictions qui sont des contradictions pour nous. Or, là, les marxistes, à la suite d'Engels, vont beaucoup plus loin, puisqu'ils, non seulement ils rapportent à la nature des contradictions qui sont dans notre sensibilité même, mais ils rapportent à la nature des contradictions qui sont dans l'histoire. Parce qu'effectivement, dans l'histoire, il y a des contradictions, il y a des hommes qui luttent entre eux. Ça, c'est des sacrées contradictions, les luttes de classe. Ça, c'est des contradictions réelles. Mais imaginez qu'il y a des luttes de contraires au sein de la nature, comme il y a des luttes de classe entre les hommes. C'est vraiment un anthropomorphisme, enfin, c'est vraiment transporté dans la nature. Alors, Monod a été très sévère pour ça dans son livre, et c'est vrai que chez Monod, il y a un anti-marxisme qui va beaucoup plus loin.
Oui.
Que la lutte contre la dialectique de la nature, qui va beaucoup plus loin, mais sur ce point, on peut dire qu'il marque des points, sans jeu de mots, hein, il marque des points, parce qu'effectivement, lorsqu'il dit, on retrouve là un vieil animisme, c'est-à-dire la volonté d'unir l'homme, de réunir l'homme à la nature mère, comme dans les religions primitives, de montrer que tout ce qu'il y a chez l'homme se trouve déjà dans la nature, c'est-à-dire essayer de trouver des racines dans les éléments eux-mêmes, pas de ce qui se passe dans la vie, dans ce qui se passe chez l'homme, c'est vrai, il y a là un danger, il y a un danger de corruption du marxisme par la vieille pensée religieuse. Alors, là où ça va plus loin, là où ça devient plus dangereux, c'est en effet chez Staline. Chez Staline, parce que là, et Lénine y a prêté sa main, on peut dire, dans matérialisme, empirocriticisme, sans malice, hein, parce que lui, il défendait la dialectique de la nature aussi, pour lutter contre des théories idéalistes, hein, parce que c'est un ouvrage polémique, matérialisme, empirocriticisme, hein, pour lutter contre les théories idéalistes, il défendait la dialectique de la nature, mais en réalité, à partir de là, c'est vrai que par la théorie du reflet, tu as fait allusion rapidement, par la théorie du reflet qui consiste à dire les lois de la dialectique, celles qu'on applique à l'histoire, celles qu'on applique en politique, les lois de la dialectique sont des reflets dans la tête des hommes, des reflets corrects, dans la tête des hommes de ce qui se passe dans la nature elle-même. Mais comme dans l'histoire, il y a en effet des classes qui reflètent la réalité de façon différente, il est terriblement tentant de dire c'est les classes ascendantes qui reflètent le mieux la réalité, qui possèdent par conséquent la vérité. Pourquoi la bourgeoisie a fait progresser la science? Parce qu'elle était une classe ascendante. C'est parce qu'elle était une classe ascendante qu'elle reflétait le mieux la réalité naturelle, qu'elle pouvait le mieux la comprendre. Et aujourd'hui, c'est le prolétariat qui reflète le mieux la nature, les lois de la nature, qui peut le mieux les comprendre. Et évidemment, le prolétariat, c'est dans Mao Tse-Tung d'ailleurs, repris par Garaudy première manière, dans la théorie matérialiste de la connaissance, thèse qu'il a faite en 1950. Le prolétariat, son expression la plus consciente, c'est le parti de la classe ouvrière. Et ce qu'il y a de mieux dans le parti de la classe ouvrière, son expression la plus avancée et la plus consciente, la plus scientifique, c'est sa direction. Alors, sa direction, la direction du Parti communiste, par conséquent, est celle, et c'est le groupe d'hommes qui est le mieux à même de nous dire la vérité, de nous dire la vérité de tout, à partir d'un meilleur reflet, d'une meilleure compréhension des lois de la dialectique et des lois de la nature. Vous voyez que ça va très loin. Donc ça n'est pas sans rapport avec, en effet, les problèmes de la pratique politique, cette question de la dialectique et de la nature.